le président Poutine à Sotchi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit rassuré après sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine pour évoquer l'impact de la crise alimentaire provoquée par l'offensive russe en Ukraine. Le Niger a suspendu l'exportation de son gasoil. Nous en saurons plus avec notre correspondant sur place. Au Mali, une embuscade contre des militaires a fait 2 morts et 9 blessés aux alentours de Doro sur la route de Gossi. L'explosion des crimes avec violence en Afrique du Sud, dénoncée par le ministre de l'Intérieur. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, s'est dit vendredi rassuré de sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a évoqué les craintes de crise alimentaire sur le continent à cause des effets de l'offensive russe en Ukraine. Le point avec Eric Manirakiza.
Nous sortons d'ici très rassurés et très heureux de nos échanges, a déclaré M. Sall à l'issue de cette rencontre à Sotchi, dans le sud de la Russie. Je lui ai indiqué que nous étions venus d'abord pour lui demander une désescalade et de travailler pour la paix, a-t-il précisé. Macky Sall était accompagné du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Leurs échanges ont duré 3 heures, a précisé le dirigeant sénégalais, évoquant un échange complet sur la situation. L'ONU craint un ouragan de famine, essentiellement dans les pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine et de Russie. L'offensive de la Russie contre l'Ukraine a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles. Les deux puissances agricoles assurent à elles seules 30% des exportations mondiales de blé.
Depuis le 1er juin, le Niger a suspendu l'exportation de son gasoil, le produit se faisant de plus en plus rare sur le marché local. Les explications sur les raisons de cette rareté et de la décision de suspension avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Selon un communiqué conjoint des ministères du commerce et du pétrole, la décision fait suite à un constat de vente frauduleuse de quantités de gasoil destinées à la consommation nationale vers l'extérieur. Avec le contexte international de crise pétrolière du fait de la guerre en Ukraine, le gouvernement nigérien, dans un souci de sécurisation de la consommation locale, a, au début du mois de mai dernier, réduit de 75% ses exportations de gasoil. C'est cette mesure qui a donc eu un impact chez les 3 pays de destination du gasoil nigérien que sont le Mali, le Burkina Faso et le Nigeria et qui a conduit les consommateurs de ces pays, particulièrement ceux du Nigeria, à se ruer dans les stations-service du Niger pour s'approvisionner, créant une spéculation autour des prix. En plus de la décision de suspension de l'exportation du gasoil, le gouvernement nigérien a menacé de sanctions les marketeurs qui s'adonneraient à une exportation frauduleuse et ou à la spéculation sur les prix en rassurant les populations des mesures prises pour assurer la continuité de l'approvisionnement régulier du marché national en produits pétroliers. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Par ailleurs, le président nigérien Mohamed Bazoum a réitéré ce vendredi son offre de main tendue aux combattants djihadistes souhaitant se repentir. Monsieur Bazoum a effectué une visite à Torodi, non loin du Burkina Faso. Au Mali, un convoi de véhicules militaires maliens qui se rendait à Gossi hier, le 2 février, est tombé dans une embuscade dans les environs de Doro. Il est difficile de mesurer l'ampleur des dégâts sur le terrain, mais un bilan provisoire de l'armée fait état de 2 soldats maliens tués, 9 blessés et 2 véhicules de l'armée détruits. Il y aurait 7 morts du côté des assaillants. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
C'est une mission de ravitaillement de la garde nationale qui a quitté Gao, qui se rendait à Gossi, qui a été la cible d'une attaque d'hommes armés aux environs de Doro, hier jeudi vers 16h. Doro est situé à quelques 105 km de Gao et 55 km de Gossi où se trouvait le camp des Fama. À ce stade, il est difficile d'établir un bilan exact de cette attaque, mais l'armée malienne, dans un communiqué, donne un bilan provisoire de 2 soldats maliens tués, 2 véhicules calcinés et 9 autres soldats blessés. Du côté des assaillants, le communiqué de l'armée fait état de sept assaillants tués. Selon des personnes interrogées qui seraient venues de la forêt de Douro, le bilan serait lourd avec plusieurs morts de part et d'autre. Des véhicules calcinés et certains blessés des femmes seraient évacués par hélicoptère. Il faut rappeler que entre le 19 et 20 avril dernier, camp de Goussi a été officiellement remis à l'armée malienne par la force Barkhane qui l'occupait dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Toujours au Mali, deux casques bleus égyptiens de la mission de l'ONU ont été tués par un engin explosif improvisé près de Douenza, dans le centre du pays, a indiqué le porte-parole de la mission, Olivier Saldago, sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons sur la situation dans la zone de Douenza, dans le centre du Mali, dans notre partie magazine. L'armée burkinabé confirme avoir tué deux influents chefs terroristes, l'un dans le nord et l'autre dans le nord-ouest du pays la semaine dernière. Le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni atteste que les chefs djihadistes Tidiane Djibrilou Diko et Sangaré Dembo ont été neutralisés grâce à un important et discret travail qui a permis l'interpellation de combattants, d'informateurs et de logisticiens des groupes armés. Au Togo, un vendeur de friperies armé d'un couteau a tué hier un gendarme et blessé un policier sur un marché de Lomé, la capitale, avant d'être maîtrisé par la foule puis arrêté. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances réelles de cet acte crapuleux, selon le communiqué du gouvernement togolais. En République démocratique du Congo, l'armée congolaise a rendu hommage ce vendredi à Goma, dans le Nord Kivu, à 17 militaires qu'elle a dit avoir perdus durant de récents combats dans l'Est contre les rebelles du M23. Dans le même temps, un nouveau rassemblement hostile au Rwanda a été organisé à Kinshasa, où les manifestants ont encore demandé la rupture des relations diplomatiques avec Kigali. Toujours à Kinshasa, le procès de François Béya, ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, chargé de sa sécurité, s'est ouvert aujourd'hui. Avec 6 co-accusés, François Béya est poursuivi selon la cour pour avoir formé un complot contre la vie ou contre la personne du chef de l'État. L'audience a eu lieu sous une grande tente dans l'enceinte de la prison centrale de Makala, en présence d'une trentaine de membres des familles des prévenus. En Angola, la prochaine élection présidentielle qui opposera le chef d'État sortant João Lourenço au chef de file d'une opposition unifiée pour le battre a été fixée au 24 août, a annoncé la présidence. Le chef de l'opposition et candidat Adalberto Costa Junior a déclaré cette semaine à la presse douter du bon déroulement de ce scrutin. Le ministre sud-africain de l'Intérieur, Bheki Cele, dénonce une explosion des crimes avec violence dans un pays qui figure déjà parmi les plus dangereux au monde. Il a fait cette dénonciation lors d'une conférence de presse vendredi. Nanit Talani.
Les 3 premiers mois de l'année ont été violents, brutaux et dangereux pour de nombreux Sud-Africains. 6803 personnes ont été tuées, marquant une hausse de 22,2% par rapport à la même période de l'année précédente, a souligné le ministre Bheki Cele dans une conférence de presse. Selon lui, ces meurtres ont frappé de manière inquiétante les enfants, avec 306 victimes, une hausse de 37,2%. Il a aussi signalé 10 818 viols, tandis que les enlèvements ont plus que doublé avec 3306 cas. Rien ne peut justifier de si terribles chiffres, selon le ministre, qui s'engage aussi à nettoyer les rangs de la police de ces éléments corrompus, renforcer les équipements de ses services et améliorer les relations avec certaines communautés qui préfèrent mettre en place des milices pour assurer leur propre sécurité. Il a conclu en disant que la police seule ne pourra pas gagner la guerre contre le crime, appelant à un partenariat plus fort avec les communautés basées sur une relation de confiance.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 100e jour de la guerre en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays sortirait vainqueur alors que l'Union européenne a durci ses sanctions contre la Russie avec un embargo pétrolier progressif. Moscou, qui concentre désormais ses forces dans la région du Donbass, dans l'Est, assure pour sa part avoir déjà atteint certains de ses objectifs. Par ailleurs, les Nations Unies mènent d'intenses négociations pour libérer des dizaines de millions de tonnes de céréales ukrainiennes et empêcher une crise alimentaire mondiale, a confirmé le coordinateur de l'ONU en Ukraine. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a promis ce vendredi une riposte immédiate à toute action politique des Occidentaux lors de la réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique prévue en début de semaine prochaine. Les États-Unis ont confirmé hier préparer une résolution. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Les prix augmentent dans la zone UEMOA et ont déjà dépassé les seuils de sécurité de la Banque centrale. Selon l'agence Ecofin, l'inflation ou encore hausse généralisée des niveaux des prix a atteint 6,8% dans cette sous-région. Dans des pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, les prix alimentaires sont en hausse de 12%. Le marché de l'emploi est resté solide en mai aux États-Unis, où 390 000 emplois ont été créés, selon les données du département du travail. Le taux de chômage est resté inchangé à 3,6%. Les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services aux entreprises, du transport et de l'entreposage ont été les principaux créateurs d'emplois. Le constructeur automobile américain Ford a annoncé son intention d'investir près de 4 milliards de dollars et de créer 6 200 emplois dans le nord des États-Unis. Cet investissement vise à accélérer la production de véhicules électriques et lancer de nouveaux modèles à moteur thermique. Ford prévoit également d'embaucher à plein temps 3 000 salariés actuellement sur des postes temporaires. Cette expansion se fait dans des usines déjà existantes dans l'Ohio, le Michigan et le Missouri.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent.
Oui, les Comores se sont imposés 2-0 face aux Lesotho. Le Togo reçoit l'Eswatini. Le Burkina Faso croise les crampons contre le Cap-Vert. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, accueille la Zambie. Hier, le Mozambique et le Rwanda se sont neutralisés 1-1 et la Tunisie a écrasé la Guinée équatoriale à 4-0. Demain samedi, entre autres matchs, les Aigles du Mali affrontent les Diables Rouges du Congo au stade du 26 mars du Bamako. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur adjoint des Diables Rouges dit avoir bon espoir, Frédéric Demailleur.
On est prêt pour le match de demain, même si on sait qu'on va avoir en face une très bonne équipe de football. Donc voilà, à nous de montrer qu'on est capable de les bousculer, qu'on est capable de les battre. Et voilà, on va tout faire pour offrir au public déjà un beau match de football.
Frédéric Demailleur, sélectionneur adjoint des Diables Rouges. En face, le sélectionneur des Aigles du Mali dit se concentrer sur son sujet. Éric Sekou-Chil.
Bien sûr, je suis conscient des attentes et entre guillemets de la pression du résultat. Bon, aujourd'hui, je suis bien sûr que j'ai envie de gagner ce match, j'ai une grande envie de gagner ce match. Mais moi, aujourd'hui, je suis concentré sur mes joueurs, je suis concentré sur mon plan de jeu. Et la seule pression que j'ai, c'est qu'ils répondent parfaitement à ce que je vais leur demander.
Éric Sekou-Chil, sélectionneur des Aigles du Mali. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
En Europe, le Portugal et l'Espagne se neutralisent en Ligue des Champions.
Le Portugal a arraché le nul 1-1 face à l'Espagne, finaliste de la dernière édition. Hier à Séville, pour la première journée de la Ligue des Nations 2022-2023, au terme de cette première journée, c'est la République tchèque vainqueur de la Suisse 2-1 qui prend les rênes du relevé groupe B. Ce soir, la Belgique fait face aux Pays-Bas, la Croatie joue l'Autriche et la France reçoit le Danemark.
Basketball, Boston remporte le premier match de la finale NBA.
Grâce à une adresse exceptionnelle à 3 points dans le dernier quart-temps, les Celtics se sont imposés 128 face à Golden State au Chase Center de San Francisco. Les Warriors, qui menaient de 15 points au troisième quart-temps, ont subi la foudre dans les 12 dernières minutes, 14-16, encaissant notamment 9 paniers à 3 points face à des Celtics en feu. Il n'y a pas de quoi paniquer, c'est la première équipe à 4 victoires, pas la première à 1, a déclaré Draymond Green après le revers de son équipe. La rencontre numéro 2 aura lieu dimanche, toujours en Californie. La première équipe à 4 victoires sera sacrée championne NBA.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg toujours avec vous, place au dossier du jour. Au Mali, cela dure depuis bientôt 2 semaines. Au moins une centaine de voyageurs sont bloqués entre le village de Nokara et Douenza, dans le centre du pays. Des hommes armés barrent le passage à au moins une dizaine de véhicules de transport public et des camions de marchandises venant de Bamako ou de Gao. Les autorités locales s'activent comme elles peuvent pour lever ce blocus. Mais les solutions proposées ne semblent pas rassurer ces voyageurs, dont des femmes et des enfants, qui vivent désormais grâce au soutien des populations locales. Pour un témoignage, Bagassi Koura a joint Amadou Ouologem, un habitant de Douenza.
Les cars se sont retournés jusqu'à Douenza, mais les gros porteurs, là, les camions et les consorts là, sont restés à Dala. Parce qu'ils ne peuvent pas retourner jusqu'ici à Douanza. Et ils ont décidé de rester parce qu'ils ne veulent pas rester en Bruxelles. Il n'y avait pas la nourriture ni rien. Qu'ils préfèrent venir à Douanza Ville.
Et ils sont à Douanza Ville. Pourquoi ils ne partent pas chez eux? Ils ne retournent pas d'où ils viennent?
Ils sont restés ici à peu près 3 ou 4 jours comme ça. C'est là que le gouverneur de la région a intervenu, soi-disant en appelant tous les chauffeurs de car. Il les a tous convoqués sur lui, au gouvernorat, en leur demandant la situation. Il a pu prendre des mesures et contacter les autorités qui sont les FAMA et consorts. Et paraît-il que les FAMA sont allés au lieu là où on les a fait retourner. Donc ils ont nettoyé le chemin en regardant tout à fait s'il n'y a pas de mines qui sont placées sur la route. Ils ont fait à peu près 3 jours pour ça. Et après, le gouverneur les a rappelés de rentrer, qu'il n'y a rien sur la route. Et les chauffeurs ont refusé. Soi-disant, en quittant là-bas, les hommes armés là, les ont consignés, soi-disant, qu'ils peuvent venir avec les FAMA. Mais en cas, s'ils arrivent à Gao, le jour où ils viennent seuls sans les FAMA, ils vont les tirer là-dessus. Donc, c'est cette raison qui a fait peur aux chauffeurs de continuer ce chemin. Le gouverneur les a dit, si tel est le cas, vous ne voulez pas partir avec les FAMA, je préfère que vous faites retourner les passagers jusqu'à là où vous les avez pris, c'est à Bamako. Bon, il y a des chauffeurs qui ont accepté, parce qu'à ma connaissance, il y a 2 cars qui se sont retournés. Mais tout le reste est bloqué ici. Et les passagers contenant les enfants, les femmes, les hommes, tout ça, il y a beaucoup qui sont restés ici. Ils ont des difficultés même à manger.
Et donc, ils vivent de quoi?
Souvent, c'est la population qui les ravitaille en eau et en nourriture. Les bonnes volontés. Ils ne veulent plus aller à Bamako parce qu'ils n'ont rien là-bas. Ils n'ont pas d'argent ni rien. Les transports qu'ils ont eu, ils ont donné ça. Et retourner jusqu'à Bamako encore, chercher d'autres transports et revenir, c'est tout à fait un problème pour eux. Ici, Douanza, c'est plus raccourci à Gao que d'aller jusqu'à Bamako et retourner encore.
C'était Amadou Ouologem, un habitant de Douenza, dans le centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, poursuite du forum Week Mining qui réunit des représentants de 45 pays et plus de 4000 participants à Lubumbashi. Les miniers de quelques 45 pays sont réunis pour explorer de nouvelles voies dans l'exploitation des minerais divers qui permettront l'abandon des énergies fossiles. Eddy Sango a joint sur place Eric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo en charge des mines.
On veut savoir exactement où est-ce qu'on en est, dans le futur où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer les relations entre le secteur minier, l'économie et les populations. Et c'est une conférence très importante qui nous prend à peu près 4 à 5 000 personnes et à peu près une vingtaine de pays où on montre qu'est-ce que le Katanga ou la RDC peut donner au monde et qu'est-ce que le monde peut faire pour transformer les mines au profit du monde entier. La RDC détient quand même tous les composantes pour cette transition énergétique, qu'il s'agisse de la plus grosse réserve du cobalt, nous avons du nickel, nous avons tous les éléments, le lithium et le nickel pour permettre ce qui est une transition énergétique au profit du bien-être global et principalement du Congolais aussi.
Mais qu'est-ce qui fait que le Congo n'ait pas encore commencé l'exploitation de ces gisements? On parle par exemple du contrat que le Congo aurait déjà signé avec les Australiens pour les gisements de Zaïre éteints avant même qu'on découvre les lithium, mais ça fait des années. Qu'est-ce qui ne marche pas?
Ils étaient exploités à l'époque avec des sociétés comme on l'appelait Zaïre éteint et Congo éteint. À cette époque-là, la technologie n'était pas aussi avancée que maintenant pour les batteries et pour les visées environnementales et climatiques mondiales. Actuellement, avec les objectifs environnementaux actuels, on est rentré vers ces genres de minerais. Et à la faveur des nouvelles lois au Congo qui libéralisent le secteur minier et qui les régulent aussi, il est très important d'attirer ces gens dans ce domaine qui est quand même un secteur lourd d'investissement. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y aller, mais il y a toute une préparation qui se fait parce que c'est une industrie lourde, il faut au moins 4 à 5 ans. Et la plupart des projets sont en train d'aller. Et le plus gros projet pour l'instant, c'est celui que vous connaissez, qu'on a octroyé déjà des titres, et qui est à maturité et qui va bientôt commencer. Et pour commencer, évidemment, il y a tout l'écosystème tout autour qui se met en place. Et nous sommes très, très, très sûrs que d'ici quelques temps, selon ce qu'ils diront, nous allons commencer cette exploitation. Physiquement, l'exploitation peut commencer dans l'année qui vient.
Mais qu'est-ce que fait la RDC pour que l'exploitation puisse bénéficier finalement à la population?
Il y a ce qu'on appelle les droits à rétrocéder directement au propriétaire du sol. La redevance minière, le 0,2% du chiffre d'affaires qui est redonné directement aux populations. Et dans la zone où se trouve l'exploitation en pollution, c'est une zone, je peux vous dire, où les populations ont un revenu très 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 faible que vous qualifiez de pauvre. On est en train d'arranger des voies d'évacuation des voies d'accès. C'était un problème intégrateur. Trois, la population elle-même est en train de demander des comptes. Je peux vous dire, pour l'instant, dans la zone là-bas, il y a une université.
Éric Monga, vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, en charge des mines.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les détenus vivent dans des conditions précaires et généralement dans des prisons surpeuplées. Hommes, femmes et enfants sont souvent incarcérés au sein d'un même établissement pénitentiaire. Nathalie Barge, adjointe à Gao, au Mali, Jacqueline Feinstein, administratrice pénitentiaire à la MINUSCA, qui dresse ici un bilan de la situation des femmes et des mineurs en milieu carcéral au Mali et au Cameroun, son pays d'origine.
Au Cameroun, dans la séparation catégorielle des détenus, les femmes sont dans leur quartier. Parce qu'il y avait une prison pour femmes au Cameroun, la prison de Fou. Mais aujourd'hui, elle n'est pas exclusivement féminine. Il y a les hommes, il y a les femmes. Parce que les femmes sont dans leur quartier, les hommes dans leur quartier, les mineurs, ainsi de suite. Pour moi, ce n'est pas la solution parce que la plupart des agents sont masculins. Il n'y a que quelques femmes. Le nombre n'est pas assez élevé pour prendre en charge exclusivement les femmes. Donc, il y a toujours cette violence basée sur le genre qui n'est plus physique, ça je le dis, mais même pas sexuelle parce que aujourd'hui les hommes n'ont pas accès dans le quartier des femmes. Mais au niveau des agents pénitentiaires aussi, à l'époque il y en avait, mais je crois qu'ils ont été vraiment sanctionnés et certains moments ont été révoqués de leur fonction. Et aujourd'hui la violence elle reste au niveau du traitement de la femme. Les femmes par exemple n'ont pas droit à des sorties comme les hommes, elles n'ont pas droit à toutes les formations comme les hommes, elles n'ont pas droit aux loisirs comme tous les hommes. Et on ne tient pas compte de la vulnérabilité des femmes, de leurs besoins personnels, physiologiques et tout. Donc on leur applique les textes qu'on applique aux hommes, ce qui fait que pour moi c'est une violence. Il y a les enfants aussi accompagnant leur mère, leur sort. parce qu'ils ne sont pas pris en charge par l'administration pénitentiaire. C'est les parents qui doivent s'en occuper. Ça devient difficile parce que si la maman est déjà incarcérée dans nos pays, les femmes sont abandonnées par leur famille quand elles sont en prison. Ça devient très difficile.
En ce qui concerne donc les mineurs qui se retrouvent en prison, est-ce qu'il y a des lieux où, selon vous, il serait préférable que ces enfants se retrouvent plutôt qu'en milieu carcéral tel qu'il existe aujourd'hui?
Oui, absolument. Moi, mon souhait, c'est de créer des centres de rééducation des mineurs en conflit avec la loi dans tous ces pays. Mmh. Au Mali, il y en a. Il y a un seul centre de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi, ce qui est très insignifiant pour un pays aussi vaste que le Mali. Donc, vous pensez qu'un enfant, un mineur qui a été poursuivi à Gao ne peut pas être transféré à 2000 km de ses parents? Bon, c'est déjà quelque chose, mais il faudrait multiplier. Et là, moi, je dis, il ne faudrait pas qu'on condamne ces enfants. Qu'on mette ces enfants dans ce centre de rééducation, mais c'est pour les rééduquer. Autant les mettre dans ces centres de réinsertion, les former, les rééduquer et les remettre dans la société pour qu'ils puissent rebondir. Donc, les personnels qui sont affectés dans ces centres, ça doit être des éducateurs spécialisés, des psychologues, des travailleurs sociaux. Ces éducateurs doivent se baser essentiellement sur l'éducation des enfants. Or, dans nos prisons, on n'en a pas. C'est un défi à relever.
Donc, est-ce qu'il y a des formations ou en tout cas, est-ce que c'est en projet, ne serait-ce que pour certains enfants, qu'ils puissent retourner à l'école, en tout cas qu'ils soient alphabétisés?
Ceux qui sont en bas âge, à partir de 14 ans, par exemple, jusqu'à 18 ans, on leur impose l'éducation d'abord. Et on a un projet d'alphabétisation à la prison de Gao parce que beaucoup sont analphabètes quand ils arrivent. Donc, on est en train de faire la formation continue jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup savent déjà écrire et lire. Et ce même projet, je l'ai fait en Haïti, où beaucoup de femmes entraient, elles ne savaient ni lire ni écrire. Par exemple, à la fin de ma mission, elles savaient écrire des lettres à leur famille pour leur dire comment elles se portaient. Et elles étaient tellement heureuses.
Jacqueline Feinstein, administratrice pénitentiaire, jointe à Gao au Mali. Le département d'État américain a publié son rapport annuel sur la liberté religieuse dans le monde, désignant la Chine, la Russie, la Birmanie, l'Afghanistan, l'Inde, le Pakistan et d'autres pays pour de graves violations de la liberté de religion. Le point avec la correspondante de la VOA, Cindy Sain, récit Ginny Niwa.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken et l'ambassadeur itinérant Rashad Hussein ont présenté jeudi leur rapport annuel sur la liberté religieuse, citant la Chine comme l'un des pires récidivistes en matière de violation de la liberté religieuse en 2021.
China.
La Chine poursuit son génocide et sa répression des Ouïghours à prédominance musulmane et d'autres groupes religieux minoritaires. Depuis avril 2017, plus d'un million d'Ouïghours d'ethnie kazakh, turc et autres ont été détenus dans des camps d'internement au Xinjiang.
Pékin a rejeté cette condamnation, affirmant que les camps de détention sont des centres de formation professionnelle. Monsieur Blinken a déclaré que le gouvernement chinois a également poursuivi sa répression contre les bouddhistes tibétains. Il a cité l'Iran, Myanmar, les talibans en Afghanistan et d'autres pour des violations flagrantes. La Russie figure à nouveau sur la liste des contrevenants, a déclaré l'ambassadeur Rashad Hussein.
Après avoir été désigné comme pays particulièrement préoccupant pour la première fois l'année dernière, la Russie a doublé ses violations de la liberté religieuse plutôt que de faire marche arrière. Les autorités russes effectuent des centaines de perquisitions à domicile contre des extrémistes présumés qui incluent souvent la violence.
Anthony Blinken a déclaré que dans la plus grande démocratie du monde, l'Inde, il y a une augmentation des attaques contre les personnes dans les lieux de culte. L'ambassadeur Rashad Hussein.
En Inde, certains responsables ignorent ou même soutiennent la montée des attaques.
Dans le passé, les dirigeants indiens ont fermement rejeté toute critique américaine sur des attaques contre des minorités religieuses dans leur pays. Monsieur Blinken a aussi appelé le rival historique de l'Inde, le Pakistan, affirmant qu'au moins 16 personnes ont été condamnées à mort l'année dernière pour blasphème, même si aucune de ces condamnations n'a été exécutée.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Clermont Rangibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.